Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. À quelques jours des célébrations pascales, l'Église catholique vacille sous les scandales. Affaires de pédophilie, abus sexuels, procès, rumeurs et soupçons, d'un pays, d'un continent à l'autre, de la communauté des fidèles jusqu'aux différents paliers de la hiérarchie, ce ne sont que stupeur et tremblement sans que la souffrance des victimes trouve d'exutoire. Le pape François, en bon jésuite, temporise. Le sommet sur la protection des mineurs en février dernier n'a livré aucun résultat concret. Les quelques gestes d'ouverture à l'égard des homosexuels, dont certaines organisations étaient reçues à Rome le week-end dernier, ont déçu. Au Vatican, François est la cible d'attaques féroces au sein même du collège épiscopal. Les luttes de clans, jadis feutrées, ont changé d'intensité. Une sorte de guerre civile à ciel ouvert déchire l'Église romaine et oppose ses clientèles traditionnelles. Comment en est-on donc arrivé là? Pourquoi les affaires de mœurs, si longtemps enfouies sous la robe, ont-elles pris une telle ampleur? Que signifient les tentatives de déstabilisation de ce pape argentin dont les priorités contrarient l'ordre établi? En France, la conférence épiscopale vient de rajeunir son organigramme. L'Église peut-elle rejoindre son temps? C'est ce que nous allons explorer ce matin grâce à vous. Bonjour Daniel Hervieux-Léger. Vous êtes directrice d'études à l'EHESS, sociologue réputée des religions. Merci d'être avec nous. Constance Colonna Cesari, documentariste, journaliste, spécialiste du Vatican. Par téléphone depuis Gênes, et je l'en remercie, Marco Politti, vous êtes journaliste, analyste fameux des affaires vaticanes. Et avec nous, bien sûr, notre ami Frédéric Martel, écrivain, sociologue, bien connu sur nos ondes de France Culture, producteur du magazine Soft Power. Madame Hervieux-Léger, le pape, quand il a réuni ce sommet en février, le pape a invoqué Satan et le mal. Est-ce que c'était donc ce sommet sur les abus sexuels dont la simple réunion était déjà un événement dans l'histoire de ce pontificat? Est-ce que ce vocabulaire annonce l'incapacité même à définir des mesures concrètes et efficaces? Ce sont les termes qui étaient promis.
Je ne sais pas si le fait de parler de Satan augure ou pas d'une volonté très forte de changer les choses. En tout cas, ça n'a pas été reçu comme tel. C'est-à-dire que cette formule a eu, d'une part, un premier effet qui est d'apparaître extraordinairement décalé de la culture contemporaine, et d'autre part, même si ce n'est pas vrai de tous les continents, hein, il ne faut pas l'oublier, de sembler déplacer le problème du côté d'une puissance intervenant au fond à l'insu ou en dépit de la volonté d'acteurs humains qui sont directement concernés par les affaires en question. Je ne sais pas trop quoi penser de cette affaire, mais je ne pense pas que c'était un pas de communication particulièrement positif.
Et donc le désarroi des fidèles a commencé bien évidemment par les victimes des affaires de pédophilie. Tout ça s'en est trouvé aggravé en quelque sorte.
Oui, mais il ne faut pas oublier que le désarroi, il est bien en amont de tout cela. C'est-à-dire que les affaires dont on parle, en gros, deux affaires, qui d'ailleurs, il est important de le rappeler, parce qu'on assiste à des courts-circuits assez troublants, y compris dans le discours épiscopal, entre d'un côté la question de la pédocriminalité et de façon plus générale des crimes sexuels dont le clergé est responsable. Et puis de l'autre côté, l'explosion à la fois médiatique et politique qui a représenté la publication du livre de Frédéric Martel, Sodoma. Ces deux choses interviennent dans le même espace-temps et en même temps, ça concerne deux dossiers dont il faut redire qu'ils sont disjoints. C'est extrêmement important de le dire. Je répète, les courts-circuits sont fréquents. Mais malgré tout, ces dossiers se rencontrent de deux façons. La première, c'est que sur un terrain et sur l'autre, ça révèle au grand jour une culture du secret, une volonté de protéger l'institution, de fermer les portes et les fenêtres. Donc, et cette culture destinée avant tout à préserver un système de pouvoir qui est, on en reparlera sûrement, gagé sur la figure du prêtre. Et puis, l'autre point de convergence, c'est que les deux questions touchent à des problèmes engageant la sexualité. Et de ce point de vue-là, le désarroi des fidèles, il a commencé bien en amont. Je veux dire qu'il a commencé au moment où a été publié en 1968 l'encyclique Humanae Vitae, où s'est accentué d'une façon absolument gravissime le décalage entre une culture qui fait entrer la parité, la liberté sexuelle au rang de non seulement de des possibilités qu'elle offre, mais de ses valeurs, en tant que ça participe de l'autonomie du sujet individuel, et puis un discours de l'Église qui verrouille, qui continue de verrouiller, et qui finalement ne bouge pas beaucoup par rapport à la thématique familialiste et à l'obsession des questions sexuelles, qui intervient, je le rappelle, dans l'histoire de l'Église, relativement tard. Non pas que l'Église ne se soit pas toujours préoccupée de la question de la chair et des problèmes qu'elle pouvait poser au regard du péché.
Non, ça fait même partie de
absolument,
sa doctrine.
Mais on peut dire
fondatrice.
Tout à fait, mais en même temps, la manière obsessionnelle dont cette question occupe le terrain est relativement récente. En gros, elle est du 19e siècle. Elle date de la pré-révolution française. Elle date du moment où l'Église perd la main politique et va donc trouver sur le terrain de la famille le lieu principal de la reconstruction de son pouvoir. Et là, une question qui a toujours été présente dans l'économie chrétienne devient une question obsessionnelle du système romain. Et cette question, enfin, l'Église ne regarde pas sous les draps d'une façon systématique avant le XIXe siècle. À partir du XIXe siècle, on va faire obligation aux prêtres, par exemple, d'interroger les pénitents et évidemment surtout les pénitentes sur leurs pratiques sexuelles. Il est clair que dès ce moment se met en place un système qui est orthogonal par rapport aux attentes de notre culture et de notre société, et donc au moins dans les sociétés occidentales, rappelons-le. Donc voilà le tableau, et le tableau il se défait bien en amont des convulsions auxquelles on assiste aujourd'hui.
Mais ces convulsions, Frédéric Martel, vous y contribuez puissamment, d'ailleurs, c'est ce que vient de souligner Madame Hervieux-Léger, puisque votre ouvrage Sodoma, qui est publié dans une dizaine de langues, dans une quinzaine de pays, un best-seller international, prouve à quel point cette Église qui regardait, pour reprendre l'expression de la mère Vieux-Léger, sous les robes des femmes, ne regardait pas pendant très très longtemps sous ses propres robes.
Alors, je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit par Daniel Hervieux-Léger. On a un point de bascule en ce moment qui peut-être va devenir d'ailleurs un point de rupture dont le pape François fait les frais. Ce pape était plutôt aimé en France. Et d'ailleurs, pour ma part, je suis plutôt, disons, quelqu'un qui le défend. Surtout comparé aux autres et aux attaques dont il est l'objet par une forme d'extrême droite ou d'ultraconservatisme qui existe beaucoup aussi au Vatican parmi un certain nombre de cardinaux. Mais on voit qu'aujourd'hui, deux tiers des Français, si on suit le récent sondage de témoignages chrétiens, deux tiers à peu près des Français sont désormais critiques à son égard, ne comprennent pas ses positions, notamment après la décision qu'il a prise de ne pas accepter la démission du cardinal Barbarin.
Et, il a dit qu'il attendait que la justice se prononce.
Oui, il a dit aussi on ne va pas juger des affaires médiatiques, mais ce n'est pas une affaire médiatique, c'est un jugement, certes de première instance, mais c'est un jugement. Il a été coupable. Et par ailleurs, même si on aime le cardinal Barbarin, ce n'est pas lui rendre service. C'est une sorte de souffrance, de supplice chinois que de le laisser à Lyon dans l'état d'esprit de cette ville après ce film, etc. Mais pour revenir au problème, je pense qu'on a une série de problèmes qui se posent et qu'on retrouve à l'Osservatore Romano avec la démission de Lucetta Scarafia, l'une des rares femmes actives à défendre des positions un peu féministes et encore un peu...
Oui, parce qu'il n'y a pas de femmes au Vatican.
Il n'y a pas de femmes. C'est une organisation expressions misogynes. Les seules femmes qu'on croise, à part à la direction du musée, c'est essentiellement des femmes de ménage mexicaines. Il n'y a aucune femme. C'est un univers d'hommes. C'est un univers d'ailleurs très, très misogyne.
Et un univers d'hommes en robe. Et ça, c'est très frappant dans votre livre, parce qu'au fond, vous expliquez très bien qu'en Italie en particulier, pour les jeunes garçons de milieu modeste et dont les penchants sexuels étaient contraires à ce qui était considéré à l'époque comme les bonnes mœurs, ben, ces jeunes garçons trouvaient en fait dans l'Église, dans le clergé, une sorte de refuge.
L'Église a été un refuge depuis sans doute très longtemps et encore aujourd'hui pour des homosexuels qui ne s'assumaient pas vraiment ou qui vivaient l'homosexualité difficilement ou alors qui d'ailleurs ne savaient pas qu'ils étaient réellement homosexuels mais qui n'aimaient pas les femmes, ils voulaient pas se marier, ils étaient un peu moqués pour leur voix de manière efféminée. Ça d'ailleurs ça concerne aussi beaucoup de prêtres et d'évêques en France. C'est au fond une sociologie qui fait que l'Église a attiré, recruté, pour une part promu des personnes qui étaient homosexuelles ou homophiles ou qui étaient dans des rapports compliqués à l'amour d'amitié, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce pape se bat au fond un peu contre des moulins à vent. Il a invité 50 militants gays ce vendredi dernier, à Rome. Et puis finalement, il a décidé au dernier moment de ne pas les recevoir alors qu'il avait fait venir ces gens du monde entier, y compris des grands juges. Il va avoir des positions, des allers-retours compliqués. Juste pour terminer sur la question des abus, puisque je rejoins ce que disait Daniel Hervieux-Léger, effectivement, c'est pas Satan. Il dit c'est Satan qui intervient. Mais c'est tout simplement des hommes, des prêtres qui ont fait des crimes. Et au-delà de cet effet de communication désastreux de ce sommet, il y a d'abord tout simplement une politique d'inaction qui a été encore une fois proposée. Et là, je pense qu'il va falloir revoir très vite les choses.
Mais ce qui est très intéressant et choquant d'ailleurs dans votre livre, c'est que vous expliquez en fait que ceux des évêques en particulier, ceux des prélats qui enfin dénoncent avec le plus de vigueur les affaires de pédophilie, et là il faut bien insister sur la distinction que faisait tout à l'heure Madame Hervieux-Léger, il y a les affaires de pédophilie et puis il y a les affaires de mœurs homosexuelles au sein de l'Église. Et puis, il y a les abus sexuels. Il faut pas oublier non plus qu'il y a nombre de bonnes sœurs, de religieuses, qui en ont été victimes. Mais, Frédéric Martel, ce que vous expliquez, c'est que vous avez exploré les réseaux du Vatican. On comprend très bien que vous ne mettez pas de nom, mais il paraît que ceux qui s'y connaissent reconnaissent assez facilement les protagonistes, et donc que les plus acharnés à dénoncer aujourd'hui la pédophilie, ce sont en général des prélats qui sont soit homosexuels pratiquants ou soit homo.
Alors. Je pense, et là j'ai une petite nuance avec ce qui vient d'être dit, je pense, et je le dis avec énormément de prudence, en faisant très attention et en étant moi-même non seulement ouvertement gay et pro-gay, les deux dossiers ne sont pas disjoints. Dans l'Église catholique, 85% des crimes sexuels sont sur des victimes qui sont des garçons mineurs ou des hommes majeurs, souvent des séminaristes. Donc on a un problème spécifique qui n'est pas celui des abus sexuels en général, où en général les abus sexuels c'est surtout des filles qui sont les victimes et les femmes dans des familles hétérosexuelles et dans des écoles, etc. Ça c'est, je dirais, les abus sexuels au niveau international global. Dans l'Église, il y a une spécificité qu'il faut bien appeler homosexuelle, puisque ces abus sont des abus homosexuels. Alors pourquoi ça? D'abord parce qu'il y a ce cléricalisme, vous l'avez très bien dit, et cette espèce de culture du secret qui protège tout, qui protège l'homosexualité et qui du coup va protéger aussi d'autres choses. L'autre élément, c'est que jamais l'Église, ni sous Jean-Paul II, ni sous Benoît XVI, ni avant ni depuis, n'a vraiment distingué deux choses, à savoir justement des relations entre majeurs consentants d'une part et d'autre part des relations avec un mineur non consentant ou avec de l'autorité ou avec des abus. Et ça, cette distinction n'existe pas chez Ratzinger. Tout est crime. Tout est puni, tout est intrinsèquement désordonné.
Benoît XVI.
Ensuite, il y a évidemment des actions de chantage, beaucoup de chantage. Beaucoup des prêtres, des évêques qui protègent des abuseurs sont eux-mêmes dans des difficultés par rapport à leur sexualité. C'est su dans la paroisse, c'est su dans l'évêché. Et donc, il y a des jeux complexes qui expliquent tout ça. Et puis enfin, c'est quoi cette homosexualité, je dirais, qu'on a parfois, qui mène à ce type d'abus? C'est pas une homosexualité. Le problème n'est pas l'homosexualité. C'est une homosexualité de sublimation, de haine de soi, de répression, et qui fait que ces gens sont complètement perdus. Et ce ne sont pas juste des décisions individuelles, c'est aussi des comportements d'une certaine manière collectifs, on le sait en sociologie, qui s'expliquent par le fonctionnement de l'Église, par ses idées et aussi par sa méthode de protection.
Marco Politi, je rappelle que vous êtes un fameux vaticaniste italien. Vous avez publié en particulier un livre sur la solitude du pape François parmi les loups. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on entend aujourd'hui des prélats très élevés dans la hiérarchie catholique s'élever publiquement contre le pape qu'ils accusent, paradoxalement, de ne pas être assez vigoureux dans la lutte contre les abus sexuels et les affaires de pédophilie au sein de l'Église?
Bien, j'écris François parmi les loups au commencement du pontificat de François, et l'autre livre, La solitude de François, vient de paraître dans quelques semaines, et ça montre déjà la situation, parce que je pense que on doit comprendre, au mieux, on doit voir que aujourd'hui, il y a une guerre civile souterraine, et pas seulement souterraine, dans l'Église contre la ligne réformiste du pape François. Et un pape n'est jamais tout puissant, comme on peut imaginer, comme on peut penser. Un pape est tout puissant quand il est conservateur. Quand il est réformiste, il trouve résistance, sabotage et opposition ouverte, comme nous voyons, avec des cardinaux qui font des documents contre le pape, avec des manifestes de 62 personnalités catholiques qui disent qu'il y a certaines propositions hérétiques dans les documents post-synodales du pape François. Et je pense qu'il ne faut pas mélanger tous les dossiers, l'homosexualité, les femmes et les abus. Par exemple, sur le plan de l'homosexualité, certainement, ce pape n'est pas assez fort pour changer des documents doctrinaires de l'Église. Il ne va pas changer le catéchisme, mais avec ses gestes, avec ses mots, c'est absolument clair du premier moment que les papes veulent libérer l'Église de l'obsession justement sur les questions sexuelles.
Oui, et alors, on voit d'ailleurs
c'est le pape qui, du premier moment, a dit qu'il ne va pas juger les homosexuels. C'est le pape qui a reçu pour la première fois un transsexuel de l'Espagne en Vatican avec sa fiancée. C'est le pape qui a reçu dans l'annonciature de Washington un ancien élève jésuite qui était avec son copain homosexuel. Alors, tous les paroisses, tous les prêtres, tous les confesseurs qui sont ouvertes, savent déjà qu'ils ont l'appui du pape pour ne faire pas plus une question du péché avec l'homosexualité ou avec un partenaire homosexuel. Et certainement, mais il y a milliers et dizaines de milliers des cadres de l'Église qui sont encore dans la mentalité du pontificat du Jean-Paul II ou de Ratzinger, qui faisaient une guerre culturelle sur les soi-disant principes non négociables. Mais le pape a déjà changé, on peut dire, les trends. Il a déjà changé l'atmosphère sur ces problèmes-là, ou sur le problème de la pilule. Aujourd'hui, il n'y a personne qui discute plus la question de la pilule ou des relations prématrimoniales, sexuelles entre des jeunes. Alors, et ça, c'est le changement que le pape a apporté. Sur le plan des abus, il y a au contraire une guerre acharnée entre une ligne de tolérance zéro que le pape voudrait réaliser et qu'il n'est pas capable de réaliser à tous les échelons. Alors sur le plan, disons, de son pouvoir personnel à Rome, il y a des exemples d'une politique très dure. C'est le pape, après quelques semaines après sa élection, il a porté à Rome les nonces de Santo Domingo, le Monseigneur Wesolowski, qui avait commis des abus, il a dégradé Wesolowski. Il voulait aussi faire une procès pénal contre Wesolowski, mais qui est mort d'un infarctus. C'est le pape qui, encore il y a quelques mois, en Chili, a dégradé deux évêques qui avaient commis des abus. Et c'est le pape qui a dégradé le cardinal McCarrick et qui a exclu aussi du collège des cardinaux le cardinal O'Brien de l'Écosse et le cardinal McCarrick. Mais sur le plan de l'Église universelle, il a rencontré une résistance de passivité. Il y a seulement dans le monde peut-être 5 ou 6 conférences épiscopaux qui sont actives. C'est la conférence des États-Unis, de l'Allemagne, de la Suisse, de l'Autriche, oui, de l'Angleterre, qui ont vraiment aujourd'hui un système pour dénoncer le crime des abus, pour avoir une équipe qui va suivre les victimes, pour avoir des dédommagements. Mais plus de 90% des conférences épiscopales n'ont fait rien. On doit penser, par exemple, à la conférence épiscopale de l'Italie, a attendu presque 10 ans après le premier appel de pape Benoît XVI dans l'année 2010 pour organiser seulement l'automne de l'année dernière un commencement d'un service de prévention pour la protection des mineurs. Et c'est pour cette raison-là que ce sommet de février a été tellement, disons, vide d'engagement précis, parce que le pape doit convaincre des épiscopats dans le monde, dans le premier monde, mais surtout aussi dans l'Afrique, dans l'Asie, qui ne veulent pas ouvrir, comme on dit en Italie, les armoires où il y a les cadavres.
Alors voilà, c'est ce qu'on dit.
C'est une guerre civile et on doit voir quelle sera cette évolution de la guerre civile. Et
Marco,
fait des erreurs. La question du cardinal Barbarin, je citerai Talleyrand quand il dit sur l'affaire d'Anguien à Napoléon, c'est plus qu'un crime, c'est une erreur fondamentale.
Alors, Marco, je vous interromps sur cette très belle citation de Talleyrand pour demander, mais restez s'il vous plaît avec nous, mais je voudrais demander à Constance Colonna Cesari, on vient de très bien comprendre que les rapports de force au sein du Vatican ne sont pas entièrement en faveur de ce pape, et donc il y a en quelque sorte aussi à l'intérieur une instrumentalisation d'un certain nombre de scandales pour affaiblir le pape François. Pourquoi ?
Voilà, toutes ces affaires, on peut les lire en observant le pourquoi, les raisons de ces affaires, c'est cette culture du secret, une vie sexuelle qui est pas facile dans l'Église évidemment, mais on peut regarder aussi ce que les voies finalement tracées par ce pape, aussi bien sur ces questions, le synode de la famille l'a prouvé et c'est ô combien important puisque à chaque fois qu'on fait un pas sur ces questions-là, ça reste dans le magistère de l'Église. C'est tout le problème de l'encyclique de Paul VI. Elle est toujours d'actualité. Or, si on la lit, c'est inepte en fait. On dit aux gens, on parle de leurs étreintes chastes et on leur dit de n'avoir aucun recours à aucune forme de contraception. Donc, on encourage les gens à avoir 17 enfants.
Mais le pape, lui, il a parlé de toute autre chose. Et, oui, et il n'arrête pas. Il parle des migrants.
Voilà. Alors, et justement, c'est ça. Il y a à la fois ce qu'il fait sur cette culture, cette morale familiale, avec toutes les résistances évidemment que ça trouve, et a fortiori dans d'autres continents, parce que nous on regarde ça avec des yeux d'Européens, on est évidemment beaucoup plus gay-friendly que si on se place du point de vue de l'Afrique, où l'homosexualité n'existe pas. Or, à mon avis, ça sera les scandales dans 50 ans.
Ça n'est pas censé exister.
Voilà, oui. Ça sera des scandales dans les 50 ans à venir, donc de toute façon l'Église n'en finira jamais. Mais il y a toutes ces voies géopolitiques que le pape a tracées, politiques, l'accueil des migrants, Laudato si même, qui froisse tellement les milieux catholiques, conservateurs et républicains aux États-Unis. Il y a l'ouverture et le dialogue avec l'islam. Donc aujourd'hui, toutes ces actions politiques du pape François, là encore à Abu Dhabi ou au Maroc, évidemment, coalise contre lui des gens qui, comme le cardinal Burke au Vatican...
Qui est le cardinal Burke?
Alors, c'est un cardinal américain qui vit au Vatican depuis très longtemps, qui avait pignon sur rue, qui avait des beaux postes au Vatican, qui s'est fait peu à peu écarter du pouvoir à deux reprises de ses hautes fonctions par le pape François, qui d'emblée y a vu un opposant frontal. C'est un homme qui, faut rappeler, c'est la culture de la vie, la culture pro-life, donc qui s'oppose exactement, puisque ce pape, quand il va aux États-Unis, alors que c'est ça le point central pour une partie de l'Église et pour une partie des catholiques américains, ne parle pas, par exemple, de l'avortement. On le lui reproche, même au Congrès.
Alors que l'avortement, on le sait, voilà, est une question obsessionnelle.
Obsessionnelle. Et ce cardinal Burke, par exemple...
Y compris dans la vie politique américaine.
Voilà, justement, avait refusé la communion à John Kerry.
Donc l'ancien secrétaire d'État...
Voilà, et candidat.
Démocrate.
Voilà, parce que il s'était exprimé sur le divorce et sur l'avortement. Donc,
alors,
on
est-ce
avait
que
une
c'est
culture,
ce
si
cardinal Burke, par exemple, qui flatte Steve Bannon, qui est donc cette
absolument
figure de l'alt-right américaine, qui a maintenant pignon sur rue, non seulement à Bruxelles, je crois qu'il a des bureaux rue de la Loi, donc tout près du Parlement européen et de la Commission, mais aussi des bureaux à Rome. Donc...
Voilà, mais Rome devient une plaque tournante, finalement, de tous ses opposants, à la fois politique et à la fois idéologique au pontificat du pape François. Donc c'est très étonnant. Il y avait ce fameux projet là qui a finalement vient d'être arrêté de la fondation de Benjamin Harwell, Dignitatis Humanae. Donc c'est un ami de Steve Bannon, c'est un ami du cardinal Burke et qui avait investi, vous savez, cette chartreuse de Trisulti pour y faire, y ouvrir une école de formation aux élites, à la future élite de la droite souverainiste, de toutes les droites souverainistes européennes. Donc, qui rallie les Orban, les Marion Maréchal, parce que ces gens-là, sur la question de l'islam, de l'accueil des migrants, sont profondément hostiles au pape François, et que ça rejoint, d'autre part, ces gens qui se sont mobilisés contre l'encyclique, l'exhortation apostolique après le synode de la famille, qui ont émis, vous savez, ces fameux dubia, ces doutes en latin, puis qui ont émis ensuite des corrections. Qu'est-ce que ça veut dire doctrinal? Le pape se trompe. Quand le pape se trompe, c'est qu'il est dans l'erreur. Et donc eux, ces catholiques-là, ces cardinaux en l'occurrence, il y en avait quelques-uns, estiment de leur devoir de sauver l'Église. D'où les pétitions aussi de certains milieux américains pour demander la démission du pape. Et c'est très suivi.
Daniel Hervieux-Léger, on comprend bien le poids de l'Église américaine, qui est évidemment une Église très riche, l'Église catholique américaine. On voit aussi que ce pape argentin est obligé d'essayer de jouer un équilibre entre les continents, mais sa vision à lui est aussi une vision d'homme du Sud, en quelque sorte.
C'est vrai, mais je crois que, bien sûr, cette perspective, notamment le souci qu'il a de la question des pauvres et la centralité de la question des pauvres est très très liée à son expérience d'Argentin et de Latino-Américain. Mais je pense qu'il faut peut-être revenir sur les termes de ce conflit politique, théologique et politique dans lequel il est pris. Je pense qu'il faut le replacer au fond ce qui est en train de se rejouer d'une manière incroyablement dramatisée et aggravée. Ce sont des conflits qui étaient déjà présents dans les grandes batailles qui ont suivi Vatican II. Il ne faut pas oublier que les grands débats de Vatican II n'étaient pas des questions autour du latin à la messe ou de la liturgie. Les vrais enjeux, ce qui a par exemple provoqué le schisme intégriste de Monseigneur Lefebvre.
Tout ça en quelle année, rappelez-le-nous?
Eh bien, c'est en 62, 60, le concile, d'accord, c'est 62, ça dure 5 ans, enfin... Le conflit qui s'est joué là, la rupture qui s'est jouée là, elle s'est jouée sur la déclaration sur la liberté religieuse, qui avait été rédigée, il ne faut pas l'oublier, par un jésuite américain, John Courtney Murray, qui avait donc introduit cette idée, qui est apparue comme intolérable absolument aux intransigeants les plus durs, à savoir l'autonomie de la conscience personnelle et le fait que nul ne pouvait être interdit de croire dans les choses.
Mais
ce qui est intéressant, c'est que au fond, les termes du conflit s'étaient posés entre d'un côté des gens qui se posaient la question de savoir comment l'Église selon votre première question, pouvaient rejoindre le monde tel qu'il est, et de l'autre côté, des gens qui disaient l'Église a la vérité, point final. Et elle doit la... et cette vérité est immuable, et elle ne change pas, et il faut continuer à l'asséner. Donc, on voit bien que c'est un combat du pot de fer contre le pot de terre. C'est plus facile de défendre des absolutités que de réfléchir à une modalité.
Mais donc ça, c'était il y a quelques 70 ans, donc il y a un changement de génération.
Alors, ce qui s'est produit, et c'est là que effectivement le changement de génération est important, c'est que le courant intransigeant, néo-intransigeant, où les questions politiques disparaissent un peu derrière les questions autour de la fameuse problématique de la vie, c'est la fameuse note de 2002 de Ratzinger, ce clan de ceux qui pensent que si on touche à quelque chose, on touche à la vérité même de la foi, ce clan-là s'est considérablement renforcé sous Jean-Paul II et sous Ratzinger. Pas seulement du fait de l'action des papes, mais aussi du fait que toute une série de valeurs qui allaient de soi dans les années 60 ne vont plus de soi aujourd'hui. Je pense tout simplement à l'évidence du bienfait démocratique ou des questions de ce genre, ou bien des questions nouvelles comme les questions écologiques. Donc on est devant un durcissement, une dramatisation extrême de ce conflit qui n'est absolument pas résolu. Et le pape, il se trouve, s'il louvoie, s'il donne l'impression d'avancer de 3 pas et de reculer de 2 en permanence, c'est tout simplement qu'il est devant deux schismes possibles. Il est pris en tenaille entre deux logiques de schisme. La première logique de schisme, c'est à une échelle incomparablement plus élevée, s'il touche à des questions comme l'homosexualité, comme enfin, toute une série de questions de ce genre qui sont considérées comme faisant partie de la doctrine, il provoquera le schisme de toute une partie de ces conservateurs néo-intransigeants, obsédés par les questions de la défense de la vie, qui est devenu un problème politique central. Mais s'il ne bouge pas, le schisme qui a commencé dans les années 68, c'est pour ça que je parlais d'humanité, cette espèce de schisme doux, cette évaporation d'un certain nombre de catholiques, est aux portes. Et il est déjà en route. Donc, je pense que sa position, elle est rigoureusement intenable.
Frédéric Martel, cette position intenable l'est d'autant plus qu'aujourd'hui, à la différence de ce qui se passait au moment de Vatican II, c'est qu'il y a une caisse de résonance médiatique, les réseaux sociaux, les courants politiques auxquels on faisait allusion tout à l'heure. Jusqu'à quel point est-ce que le fait qu'il y ait deux papes aujourd'hui, donc il y a toujours Benoît XVI dans ses jardins, il y a le pape François, jusqu'à quel point est-ce que ces deux figures, comme on vient de le comprendre, incarnent en fait, sinon un schisme, en tout cas un fossé considérable.
Alors il y a effectivement, et je rejoins ce qui vient d'être dit, une guerre civile en cours. Les deux papes ont jusqu'à présent, et je pense que ça durera, il faut dire que Benoît XVI a 92 ans, je crois, 91 ans, donc ils n'ont aucun affrontement face à face, au contraire, ouais. Il y a plutôt une forme de courtoisie très très vive. Jorge Anchoin, l'assistant personnel de Benoît XVI, travaille avec François, donc il y a une sorte, en apparence, d'harmonie, mais on voit bien que lorsque le cardinal Sarah, français, qui incarne les réactionnaires, a des préfaces de Benoît XVI, il y a des choses qui sont dites. Et on a effectivement une guérilla. Vous avez décrit le cardinal Burke, Serge Bannon, Arnouel, qui sont des gens avec qui j'ai vécu. Je suis allé dans ces monastères, j'ai passé beaucoup de temps avec eux. J'ai décrit de l'intérieur ce qui se passait. Ce qui est très frappant, c'est que vous avez des gens très homophobes, des gens très misogynes, des gens d'extrême droite. Enfin, il y avait des photos de Mussolini dans certains endroits où je suis allé, et qui en même temps vivent dans un univers avec beaucoup... enfin, très majoritairement des homosexuels. Donc il y a en plus une schizophrénie, une hypocrisie absolument abominable. Et c'est ça que François a compris. Ce que François déteste, c'est pas tellement le fait qu'il soit rigide, c'est qu'il mène une double vie. Et il le dit tout le temps. Il parle de ces cardinaux schizophrènes, de ces cardinaux rigides qui mènent une double vie. Il parle de ceux qui sont hypocrites. Et il vise qui...
Alors, on se souvient des adjectifs qu'il avait employés.
C'était absolument.
Il y a deux ans, les péchés capitaux.
Et alors, ce qui est paradoxal, maladies, c'est que pour comprendre ce Vatican, il faut être contre-intuitif. Au fond, ceux qui sont les plus conservateurs et les plus réactionnaires sont en fait ceux qui très souvent ont une vie sexuelle, ou en tout cas une vie complètement délirante. Je rappelle quand même qu'il y a eu ce qu'on appelle une chemsex party, c'est un peu un mot technique, mais c'est une soirée c'est des soirées régulières avec sexe et drogue qui avaient lieu à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Je raconte tout
ça. Je crois que ce n'était vrai que dans les séries italiennes.
C'est là qu'au Vatican, ça dépasse passe les séries italiennes. C'est ça qui est formidable et c'est prouvé. Les personnes ont été arrêtées par la gendarmerie vaticane et tout ça est sorti dans les journaux. Par ailleurs, le pape, lui, comprend bien et c'est très bien ce que vous disiez d'une double schisme, c'est qu'aujourd'hui, si on prend la France, 85% des Français soutiennent le mariage des prêtres. 70% sont pour l'ordination des femmes. Donc on voit bien que la société, elle a changé. Elle a d'ailleurs compris qu'il y avait une hypocrisie, un mensonge. Elle veut que cette église change. Le pape cherche à évoluer et en même temps, le collège cardinaliste, composé de gens qui ont 75, 80, 85 ans. J'ai rencontré plusieurs cardinaux de 95 ans. Donc vous vous imaginez, alors ils sont sympathiques, ils n'ont pas grand chose à faire, ils vous reçoivent longuement avec le thé. Mais on comprend bien que cette église, elle a 50 ans de retard sur la sexualité.
Éric Scholl, bonjour. Vous dirigez Courrier International. Vous avez trouvé, bien évidemment, dans la presse, un peu partout, les échos de ces nombreux scandales. Il faut quand même rappeler qu'en Australie, le cardinal Pell a été condamné à 6 ans de prison. D'ailleurs, il est en prison. L'ancien archevêque de Washington, McGarrick, lui, il a été carrément défroqué par le pape. On a rappelé donc l'affaire du cardinal Barbarin. Quels sont les papiers qui vous ont le plus frappé dans cette...
Effectivement, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a énormément de réactions, des commentaires, des éditoriaux, des analyses, surtout aussi des coups de colère. Et je voudrais vous faire part de celui d'une journaliste mexicaine, Valentina Alazraqui, qui est une bonne connaisseuse du Vatican, qu'elle couvre depuis plus de 45 ans. Et elle n'a pas hésité à interpeller le pape et l'assemblée des prélats à Rome, justement au moment de ce sommet sur les abus sexuels. Et son discours a eu beaucoup de retentissement. Le New York Times raconte la scène, se présentant comme une journaliste, une femme laïque, catholique et une mère. Valentina Alazraqui a averti les religieux que si l'Église ne commençait pas à faire la clarté et à reconnaître publiquement ses péchés, les fidèles et l'opinion publique deviendraient de plus en plus impitoyables. Valentina Alazraqui a poursuivi, si vous décidez pas de manière radicale à être du côté des enfants, des mères, des familles, de la société civile, vous avez raison d'avoir peur de nous, car nous les journalistes qui voulons le bien commun serons vos pires ennemis. Cet appel à la vérité, on le retrouve en fait dans tous les journaux de la planète. Au Chili, par exemple, où il ne se passe pas une semaine sans qu'éclate de nouvelles révélations, mais une journaliste chilienne écrit dans les colonnes de CIPER. CIPER est un excellent journal d'investigation en ligne. Elle écrit « Si la phrase biblique « la vérité vous libérera » est juste, il est plus qu'évident que les évêques chiliens sont emprisonnés depuis de nombreuses années. Ces prisonniers ont pris la décision de ne pas remettre à la justice civile l'historique des crimes possibles d'abus sexuels commis par des prêtres, ce qui aurait permis de montrer la vérité sur ces horreurs et de mettre fin à l'impunité. » Alors l'auteur de ces lignes, Monica Rinchon, fait aussi allusion au cardinal Ricardo Ezzati, l'archevêque de Santiago, accusé d'avoir couvert des prêtres pédophiles et dont le pape a accepté la démission. Voilà ce qu'elle écrit. Il a dit que toute cette crise était une bénédiction de Dieu. J'ai honte de la douleur que les survivants ont dû ressentir lorsqu'ils ont entendu le cardinal. Toute l'horreur vécue par des centaines de victimes est un produit de la perversion de ceux qui les ont maltraités, mais aussi des réseaux de protection, de dissimulation et de négligence.
Et aux États-Unis, on en parlait, et le prestige de l'Église catholique est bien terni.
Oui, alors la nomination toute récente de Mgr Wilton Gregory à la tête de l'Église catholique à Washington fait partie de ces signaux pour tenter de montrer que les choses changent. Le pape a choisi plutôt un réformateur afro-américain connu pour son engagement dans la lutte contre la pédocriminalité. Mais peut-il arriver à restaurer l'image si abîmée de l'Église ? Le Los Angeles Times invite les responsables catholiques à la plus grande transparence. Il est de plus en plus évident que la maltraitance des mineurs n'est qu'un aspect de la crise, écrit l'éditorialiste. L'Église catholique doit traiter avec la même fermeté les prêtres qui abusent sexuellement ou exploitent des adultes vulnérables, jeunes séminaristes, religieuses ou laïques. Elle fait maintenant face à son propre mouvement MeToo et doit réagir avec force. Mais pour certains, aux États-Unis, il est déjà trop tard. C'est le point de vue de Melinda Ennerberger, qui est éditorialiste à USA Today. Cette journaliste catholique raconte que lorsque le Boston Globe a révélé que plus de 130 évêques américains ont été accusés de ne pas avoir traité de manière appropriée l'inconduite sexuelle des prêtres, eh bien le cardinal de Boston, qui est, rappelle-t-elle, le principal conseiller du pape François sur ces questions, eh bien ce cardinal a déclaré « Je suis choqué par ce chiffre, cela soulève beaucoup de questions dans mon esprit. une réaction qui a suscité l'écœurement de Melinda Henneberger. « Je suis choquée qu'il soit sous le choc », écrit-elle. « L'Église s'est endormie depuis un siècle ». On observe le même type de réaction en Australie, on en parlait un instant, mais aussi en Allemagne ou encore en Pologne. Pour la version irlandaise du quotidien The Times, un gouffre sépare aujourd'hui l'Église catholique d'une part grandissante de ses fidèles. Et pour l'auteur, rien ne sera réglé tant que l'Église ne s'attaquera pas à la racine du mal, à laquelle tout à l'heure Daniel Hervé-Léger faisait d'ailleurs allusion. Je cite cet éditorialiste du Times, « L'Église catholique est obsédée par l'activité sexuelle, qu'il s'agisse de la réglementer, de la limiter ou de la dénoncer. » Or, en empêchant les prêtres d'avoir des relations sexuelles normales, l'Église laisse la porte ouverte à des relations anormales, nous explique-t-il.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine O'Krent.
Marco Politi, rejoignons. Vous êtes à Gênes et donc merci d'être avec nous par téléphone. Il ne faut pas non plus limiter le pontificat de François à ces écueils immenses et à cette espèce d'étau dans lequel il est pris, comme Daniel Hervieux-Léger l'expliquait tout à l'heure. Il a aussi des succès à son actif, ce pape.
Oui, je voudrais seulement ajouter une chose, qu'il y a une grande différence entre le temps du Vatican II et le temps d'aujourd'hui, parce que au temps du Vatican II, il y avait certainement la lutte entre réformistes et entre conservateurs, mais les voix réformistes des cardinaux et des évêques étaient plus nombreuses. Aujourd'hui, les conservateurs, les néo-traditionnalistes sont plus mobilisés que les réformistes. Alors,
d'accord,
peut-être
ça...
que si on fait un sondage, il y a des gens qui disent « Ah, je suis très content avec François », mais il n'y a pas un engagement actif d'évêques, de cardinaux, des laïcs pour la politique réformiste du pape François.
Cette politique réformiste du pape François, il a quand même réformé les finances de l'Église. On se souvient des scandales.
Je viens tout de suite.
Venez-y, parce que... Oui.
Ma seconde question est qu'aujourd'hui, les conflits, c'est pas seulement un conflit théologique à l'intérieur de l'Église, mais les forces économiques ou politiques qui ne sont pas d'accord avec sa vision d'une économie juste, avec sa vision de s'engager contre la dégradation de l'environnement et la dégradation sociale, ont fait une liaison avec les forces conservateurs à l'intérieur de l'Église. Et c'est pour ça que le cardinal Casper a dit très clairement, le cardinal allemand Casper, il y a des gens qui vont déjà préparer le prochain conclave pour avoir une autre ligne.
C'est-à-dire quoi ?
C'est que maintenant, s'il y a déjà des succès, certainement, il y a, disons, une évolution. Il y a un grand travail de nettoyage à la Banque Vatican. Où plus de 4000 comptes bancaires ont été fermés, où il n'est plus possible qu'il y a des politiciens ou des financiers qui ont un compte près de la Banque Vatican. Et surtout, le Vatican a signé des accords de coopération avec les États européens, avec les États Unis, pour combattre les crimes financiers.
Donc ça, c'est à l'actif.
Le pape a voulu qu'il y a aussi des procès contre les directeurs anciens, contre les anciens directeurs ou présidents de la Banque Vatican pour une mauvaise gestion, pour une gestion peu transparente. Alors ça, c'est un exemple concret d'un réformisme déjà appliqué. Il y a le commencement d'une décentralisation de l'Église catholique, par exemple sur le plan des déclarations de nullité des matrimoines, des mariages religieuses. Aujourd'hui, dans certaines conditions, chaque évêque local peut faire la déclaration de nullité d'un mariage religieux.
D'accord, donc on comprend que ce pape donc continue de réformer et comme vous l'avez dit, de faire le ménage à l'intérieur du Vatican. Constance Colonna Cesari, ce que l'on comprend, c'est que cette, pour reprendre l'expression de Marco Politi, cette guerre à ciel ouvert, l'objectif des ennemis de François, c'est quoi? C'est de le pousser à la démission, d'attendre sa disparition, de parier sur sa succession?
Y compris sa démission, puisque certains l'ont ouvertement réclamé. La lettre de Monseigneur Vigano, cet ancien nonce apostolique à Washington, qui écrit dans la torpeur du mois d'août, cette viganiade, comme l'appellent les vaticanistes, qui est une bombe, puisque Vigano dit « J'ai informé personnellement le pape des agissements répréhensible, des jeunes majeurs séminaristes, mais aussi un cadre mineur pour lequel il y a une plainte aux États-Unis, donc de l'archevêque de Washington.
Donc ce que dit Vigano, c'est que le pape n'en fait pas assez.
Ah ben non, bien sûr. Et oui. Il le met en cause personnellement dans, finalement, la culture du secret qui continue sous son règne, alors qu'il a dit qu'il allait s'y attaquer. Donc quand on dit « je lui ai dit, il n'a rien fait », c'est grave.
Oui, mais alors, Monseigneur Vigano,
il ment.
Oui,
non, mais je sais
très
bien.
Critiquable.
Mais évidemment qu'il ment, puisqu'il dit « Benoît XVI avait Macaric du Sacré Collège des Cardinaux, et le pape l'a réintroduit ». C'est faux, puisque le cardinal Macaric
était très protégé, y compris par Benoît XVI.
Qui élit François, donc c'est faux, c'est une certitude, on en a la preuve. Donc il ment, il mélange le vrai et le faux, mais il est vrai que ces gens réclament la démission du pape. Ces milieux américains, et c'est pas un hasard, le réclament plus haut et plus fort, on a parlé du cardinal Burke tout à l'heure, mais il faut se souvenir que la première exhortation apostolique du pape François, Evangelii Gaudium, l'année de son élection, est déjà dénoncée par tous les néoconservateurs américains qui l'accusent de marxiste. Ça fait rire, parce que évidemment, Jorge Mario Bergoglio n'est pas marxiste. Et justement, ces problèmes avec la Compagnie de Jésus, au temps où il était provincial de la Compagnie de Jésus en Argentine, le prouvent. Mais c'est une opposition également économique qui va rejoindre toutes ces autres oppositions qui se sont accumulées les unes, additionnées les unes aux autres, qui se, coalisent actuellement les droites et les milieux américains. Parce que quand vous souleviez le cas de la dernière récente nomination de l'évêque noir de
Washington, oui.
Le premier de Washington, hein, pas le premier évêque noir aux États-Unis, ni cardinal d'ailleurs, là aussi, toutes ces nominations aux États-Unis sont extrêmement clivantes et lui attirent à chaque fois un nombre croissant d'ennemis. C'est le cas avec Monseigneur Kupich, avec ses gens.
Oui, mais en même temps, avec Tobin, avec Kupich, etc., il nomme Farrell, il nomme ses proches. Donc le pape avance.
Et il fait de la politique.
Et au fond, évidemment. Il fait de la politique.
Et au sein du Sacré Collège, encore plus.
Oui, et d'une certaine manière, tout le débat, c'est ça. Est-ce qu'il va survivre 1-2 ans ou démissionner, ou est-ce qu'il va vivre pendant encore 10 ans?
Il a quel âge, le pape?
Il a 82 ans. Et je pense que c'est aussi ça qui explique beaucoup de choses. On peut pas, c'est un pape argentin, péroniste, jésuite de 82 ans. On peut pas lui demander d'être un progressiste qui va à la Gay Pride de Rome. Hein. Par nature, c'est quelqu'un qui vient d'une autre époque.
Pas ce qu'on lui demande d'ailleurs.
Non,
face au vous peut-être.
mais je veux dire par là, c'est évident qu'il est, c'est plutôt un progressiste sur les questions sociales. Vous l'avez bien résumé. Plutôt un conservateur sur les questions de morale sexuelle, même s'il est très ouvert aussi situation des individus, mais c'est vrai qu'il est attaqué, on l'a dit, par des cardinaux. Un système, n'oublions pas que ces gens sont financés. On a parlé de Bannon, on a parlé de Burke, on peut parler de Sarah, dont les livres sont achetés par
des fondateurs. Qui est le français, lui.
Il est africain, mais oui. Il parle français.
Oui.
Il est de Conakry, mais il parle couramment français, en effet. Il vient beaucoup en France. Ces livres ont été achetés par des fondations d'extrême droite américaine et diffusés. Donc, on a réellement un système qui veut abattre, qui veut faire démissionner ce pape. Monseigneur Vigano est dans les mains de l'extrême droite américaine, dont la confusion d'ailleurs entre les abus sexuels, les protecteurs de ces abus, abus, les homosexuels et les gens tout simplement gay-friendly sont tous mélangés allègrement. Un cardinal qui a été gay-friendly est accusé par Vigano au même titre que Macari qui est un abuseur sexuel. Donc on voit bien que cette confusion de l'Église est dramatique, qu'elle mène en fait à des crises bien plus graves, puisque Mgr Vigano et toute cette extrême droite dénoncent un système dont ils sont eux-mêmes en réalité la caricature, et c'est pour ça que franchement la situation est délicate.
Constance Colonna,
oui, j'allais dire, en plus c'est paradoxal parce que ces gens-là qui s'opposent au pontificat du pape François sur ces questions, finalement, en instrumentalisant ces scandales, cette crise abominable,
les entretiennent.
Et finalement, risquent de pousser le pape à prendre des décisions, y compris les plus opposées à ce qui serait leur desiderata à eux, le mariage des prêtres. Pourquoi pas?
Et quand même, mais le résultat de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 1,8% de Français qui pratiquent hebdomadairement le catholicisme. C'est-à-dire que c'est une religion qui est en train de disparaître, en tout cas, dans les pays comme la France, l'Espagne, l'Italie, un peu moins aux États-Unis du fait des Mexicains, ne l'oublions pas, pas du fait des Américains. Effectivement, il y a de beaux restes en Afrique, un peu en Amérique latine, mais c'est une religion qui est en difficulté, en tout cas en Occident, en tout cas dans les pays traditionnels du catholicisme.
Daniel Hervieux-Léger, en France, le désarroi des fidèles est évident, les affaires continuent évidemment de sortir au grand jour. Je crois qu'à Martigues, il y a quelques jours, il y a une nouvelle affaire d'abus sexuel qui a été révélé. 6 Français sur 10, d'après un sondage, ont une mauvaise image de l'Église. Et dans son livre sur l'archipélisation de la France, Jérôme Fourquet, donc de l'IFOP, explique à quel point c'est la matrice même de l'Église catholique qui, en se dissolvant en quelque sorte dans le corps social, explique la manière dont notre pays aujourd'hui vit ses affres.
L'histoire de la sécularisation remonte à longtemps. C'est pas une affaire, bien sûr, oui, il y a 1,8%, mais bien avant toutes ces crises ouvertes, le processus était engagé. Depuis 1959 en France, il meurt plus de prêtres qu'on en ordonne. Ça veut dire clairement qu'un dispositif d'encadrement clérical, qui est quand même la colonne vertébrale de l'appareil romain, est en train de se dissoudre.
Sauf qu'en France, c'est 800 qui meurent actuellement et 50 qui sont ordonnés.
C'est en train de disparaître complètement. C'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, depuis 1959, le corps clérical, avec une accélération qui est effectivement très marquée. Bon, le cas français de ce point de vue-là est assez singulier, parce que c'est aussi le résultat de la guerre des deux France et l'affrontement particulièrement violent entre l'autonomisation politique d'un côté et puis une église. La dissolution de cette matrice culturelle, ce que moi j'ai appelé exculturation du catholicisme, c'est le processus par lequel quelque chose qui a quand même profondément marqué notre culture sur la longue durée, même quand les gens n'étaient pas du tout catholiques. Jean-Paul Sartre disait « Nous sommes tous catholiques », il n'était pas spécialement une grenouille de bénitier. Donc l'idée, c'est que tout le monde, même quand on s'y opposait farouchement, partageait un certain nombre d'éléments de culture commune que d'ailleurs on retrouve à l'état sécularisé dans l'histoire de la laïcité. La conception de l'école ou de l'État, l'État de Renouvier enseignant et moral, ça ferait rire n'importe quel pays anglo-saxon, l'État de cette façon. Et c'est cette matrice-là qui était une espèce de support commun de la culture, alors même que les gens ne fréquentaient pas les églises, car la faiblesse du taux de pratique est très ancien. Cette matrice-là, elle s'est progressivement dissipée. Et elle fabrique en ce moment un retour de flamme d'un certain nombre de courants, pour le coup, pas forcément traditionnaliste au sens classique du terme, qu'on peut dire néoclassique ou néo-intransigeant, plutôt mettant l'accent sur les questions de l'écologie, de l'antilibéralisme,
oui, davantage politisés,
mais qui vont se politiser et se durcir au point de finalement d'accepter l'idée de constituer le catholicisme en France comme une contre-culture. Et ça, c'est une situation qui politiquement est tout à fait nouvelle.
Mais quand on voit à Lourdes la semaine dernière, donc la conférence épiscopale qui décide de bouleverser de rajeunir ses dirigeants. Donc si je comprends bien, c'est l'archevêque de Reims qui a 57 ans, Éric de Moulin-Beaufort. Donc on voit qu'il y a quand même un effort.
Pour le coup, c'est pas une question d'âge. C'est pas une question d'âge.
Plutôt conservateur.
Les vrais ressorts de ce catholicisme se construisant comme contre-culture aujourd'hui sur le terrain à la fois théologique et politique, c'est ça qui est important, on voit bien qu'il est porté par des générations qui sont précisément pas celles des réformistes qui en appellent au contraire à une ouverture au signe des temps. Aujourd'hui,
donc c'est un contre-effet.
C'est un contre-effet qui concerne et les évêques Jean-Paul II récemment promus à la tête de la conférence épiscopale ne garantissent absolument pas qu'on va assister à quelque chose de complètement neuf parce qu'il y a une nouvelle génération.
Il y a en tout cas un effort, Frédéric Martel, de changer de langage, de changer de discours, de reconnaître en tout cas qu'il y a des problèmes et que ces problèmes eh bien, il faut les énoncer et les décrire pour ce qu'ils sont.
Vous parlez de l'archevêque de Reims, Éric de Moulin-Beaufort, qui vient donc d'être élu président de la Conférence épiscopale de France. Moi, j'ai lu son texte très très long sur la question des abus sexuels. C'est imbitable. La personne ne comprend rien.
Je suis pas
sûr
que l'adjectif, enfin bon, un samedi matin, ça peut passer.
Ne comprend pas de quoi il parle. Et en plus, il est lui-même, il dénonce d'ailleurs les homosexuels, alors qu'il est lui-même, notamment la Conférence épiscopale, une organisation où l'homosexualité est ultra présente. Donc c'est comme si il venait nous expliquer ce qu'il fallait faire, alors même qu'il ne fait pas ce qu'il devrait faire au sein même de sa conférence épiscopale. Donc on a un paradoxe incroyable, à savoir qu'on est avec une organisation qui tourne en rond, qui ne se renouvelle pas vraiment, parce que tous ces gens-là ont été nommés sous Jean-Paul II et sous Benoît XVI, et restent, et ça prendra longtemps, parce que pour changer les évêques et même les cardinaux, eh bien il faut plusieurs décennies devant nous.
Daniel Hervieux-Léger, est-ce que cela veut dire que l'Église de France, on a fait une sorte de tour du monde, des tourments de l'Église catholique, terminons sur la France, qu'il faudrait en quelque sorte un grand débat à l'intérieur de l'Église de France? Est-ce que ce grand débat est entamé?
Je ne sais pas si ce grand débat est entamé, mais il est intéressant d'observer que, alors que depuis, et notamment jusqu'à la Manif pour tous, on a beaucoup mis l'accent, le projecteur, légitimement, sur le renforcement, la montée en puissance, l'organisation de ces courants néo-intransigeants, néo-classiques, néo-traditionnels, je ne sais pas comment on les appelle, mais qui finalement reprennent les thématiques antilibérales
et aussi minoritaires, hein, parce que n'oublions pas que dans l'Ipsos 2016, l'enquête Bayard-Lacroix montre que 6% des catholiques étaient défenseurs de la manif pour tous, donc ce qui veut dire que 73% des catholiques n'ont pas voulu y participer. Et était très hostile. Donc,
j'allais y venir.
Il y a aussi une fracture.
Ce qui est intéressant dans la crise actuelle, c'est que cette minorité, effectivement minorité, mais qui s'est beaucoup renforcée,
très bruyante,
et qui est devenue vocal, qu'on entend beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est que la crise actuelle libère une parole dont on pensait qu'elle était terminée, effacée. Je suis extrêmement frappée de voir dans les médias catholiques mainstream, qui ne recoupent pas les courants dont on parlait, ou très marginalement, on s'aperçoit qu'il y a des appels à prendre la parole, il y a des gens qui prennent la parole, il y a des livres qui sortent, je pense au livre de Véronique Margron, qui est quand même probablement la voix la plus forte au sein du catholicisme français en ce moment, autour de ces questions.
Décanoniser le pape Jean-Paul II, certains le demandent aussi.
Toute une série de mouvements, alors variés, et bon, mais qui représentent ce qu'on ne pensait plus exister, au fond, un vaste courant latent de gens qui en appellent à un changement. Et ce changement, pour eux, il passe clairement par une réforme radicale de l'exercice du sacerdoce.
Eh bien, merci à tous pour ces lumières du samedi. Merci à vous, Danielle Hervieux-Léger, directrice d'études à l'EHESS. Vous avez publié Le temps des moines, clôture et hospitalité, c'était en 2017 au PUF. Constance Colonna Cesari, vous avez écrit Dans les secrets de la diplomatie vaticane, 2016, au Seuil. Frédéric Martel, rappelons-le, vous venez de publier Sodoma chez Robert Laffont, un succès mondial. Et merci à Marco Politi, vous avez publié donc, vous, en 2016, François parmi les loups, et dans quelques semaines, on aura droit à La solitude de François. Merci à Eric Scholl de Courrier International, à la réalisation ce matin Luc-Jean Reynaud, à la technique Bruno Gagnère-Fontanille, Meryl Monegatti et Marion Barsac ont préparé cette émission, et bien sûr vous pourrez la retrouver sur notre site Affaires étrangères, la podcaster bien sûr. Comme chaque samedi, voici Hervé Gardette. Très bon week-end.